Ça a commencé ? L'émission a commencé ?
Debout !
Énorme ! Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances ?
Le football, il a changé.
Morning Tour.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Tour et vous écoutez, comme chaque vendredi matin, la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Nous sommes le 5 décembre et avant de partir pour une émission de 50 minutes, petit clin d'œil aux joueurs de l'équipe de foot de l'école qui n'ont pas fait les clampins hier soir en s'imposant 7 buts à 0. Ils valident ainsi le statut de champion et la montée en division supérieure. Mais où s'arrêtera cette équipe? Telle est la question. Au programme d'aujourd'hui, Olivia Hendenreich nous racontera le procès en appel de notre confrère Christophe Glaise en Algérie, un dossier qui continue de faire réagir. Maya Dubos reviendra sur les tensions entre les États-Unis et le Venezuela, un sujet brûlant sur la scène internationale. Et Jules Frécon nous expliquera la condamnation du maire de Saint-Étienne, une affaire qui connaît enfin son dénouement. Et tout de suite, le flash info de Rachel Giraudot.
Christophe Glaise, un journaliste de sport français emprisonné en Algérie depuis juin dernier, a vu mercredi sa peine de 7 ans confirmée par la cour d'appel de Tizi Ouzou. Il est accusé d'apologie du terrorisme après des interviews réalisées dans le cadre d'un reportage sur le club algérien GS Kabylie. Le président de la République Emmanuel Macron a promis d'agir auprès des autorités algériennes pour obtenir sa libération et son retour en France dans les plus brefs délais. Olivia Hendenreich nous en dira plus. Un accord de paix signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo a été signé hier à Washington. La signature qui visait à formaliser des engagements pris en juin, déjà sous la houlette de Washington, a eu lieu au siège de l'Institut Donald Trump pour la paix. Selon des sources locales, sur le terrain, les combats font rage depuis plusieurs jours entre le groupe armé M23, soutenu par Kigali, et l'armée congolaise, appuyée par des milices dans l'est de la République démocratique du Congo. La plateforme de commerce en ligne Shein est menacée de suspension après la découverte de la vente sur son site d'objets à caractère pédopornographique et d'armes de catégorie A. Ce vendredi, ce géant de l'e-commerce sera jugé au tribunal judiciaire de Paris. L'État français demande la suspension de la plateforme pour une durée de 3 mois. Et enfin, côté sport, hier, l'équipe de France féminine de handball s'est imposée face à l'Autriche, 29-17. Avec cette victoire, les Bleus restent en tête du groupe 3 et devront s'imposer face à l'Argentine samedi pour s'assurer une place en quart de finale.
C'était le Flash Info de Rachel Giraudot. Et maintenant, passons de l'autre côté de la Manche, où la condamnation en appel de Christophe Glaise par un tribunal algérien a provoqué la sidération. Une décision qui intervient alors que tous les signaux semblaient pourtant à l'apaisement entre Paris et Alger. Olivia Hendenreich nous en parle.
Et oui Youn, c'est la consternation du côté français. Ce mercredi 3 décembre, le journaliste sportif de 36 ans, incarcéré depuis le 29 juin en Algérie, a vu sa peine de 7 ans de prison ferme confirmée en appel. Un verdict lourd, identique à celui prononcé en première instance. Pour rappel, la justice algérienne l'avait condamné en juin 2025 à 7 ans de prison ferme avec mandat de dépôt pour apologie du terrorisme, non-possession d'un visa presse et détention de publications visant à nuire à l'intérêt national. Christophe Glaise s'était rendu en Algérie pour réaliser des reportages pour SoFoot et Society sur la jeunesse sportive de Kabylie, JSK, l'un des clubs les plus prestigieux du pays. La justice algérienne lui reproche plusieurs entretiens réalisés entre 2015 et 2018 avec des responsables de JSK considérés comme proches du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, classée organisation terroriste en 2021 par Alger, qui l'accuse de vouloir déstabiliser le pays.
Cet appel intervenait dans un contexte d'apaisement entre Paris et Alger. Pourquoi le verdict a-t-il pourtant été aussi sévère?
Eh oui, les espoirs étaient pourtant réels. Le procès s'est déroulé dans les règles puisque les deux avocats du journaliste, l'un algérien et l'autre français, ont pu plaider 1 heure chacun. Venus de Paris, ils ont pu amplement prouver que le dossier était vide. Christophe Glaise reconnaît uniquement une faute, celle d'être entré en Algérie avec un simple visa touristique, mais rien selon eux qui justifie d'en faire un terroriste. Le parquet avait requis 10 ans de prison ferme et 500 000 dinars, soit 3300 euros d'amende, affirmant que l'accusé n'est pas venu pour accomplir un travail journalistique, mais pour commettre un acte hostile. Face au juge, le journaliste avait exprimé ses regrets et demandé la clémence, mais rien n'y fait. La cour d'appel de Tizi Ouzou a confirmé sa peine de 7 ans ferme. La décision a immédiatement suscité de vives réactions. Thibaut Brutin, directeur général de Reporters sans frontières, l'a dénoncé comme aberrante et prévient que la mobilisation va monter d'un cran. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a affirmé sur France 2 que la libération du journaliste français Christophe Glaise, détenu en Algérie, était un élément majeur des discussions en cours entre Paris et Alger. « Nous allons peser de tout notre poids pour obtenir la libération de Christophe Glaise », a expliqué celui-ci. D'autant que ce verdict intervient un mois seulement après la libération de l'écrivain Boualem Sansal. Paris et Alger semblaient alors s'orienter vers une détente diplomatique et beaucoup espéraient que la situation de Christophe Glaise se suivrait la même voie.
À ce jour, Christophe Glaise reste le seul journaliste français incarcéré à l'étranger. La mobilisation ne faiblit pas. Plusieurs clubs de football français ainsi qu'une centaine de personnalités du monde des médias, de la culture et du sport ont appelé publiquement à sa libération. Désormais, la seule issue possible semble être une grâce présidentielle. L'homme accusé d'avoir profané la tombe de Robert Badinter le 9 octobre 2025 a été condamné, mercredi 3 décembre, à un an d'emprisonnement avec sursis. Antoine Camara, quel est le détail de la condamnation ?
Il était jugé en comparution immédiate au tribunal de Nanterre pour profanation de sépulture et dégradation du bien d'autrui. Louis F., âgé de 23 ans et étudiant dans une école d'ingénieurs en Ile-de-France, a reconnu les faits en garde à vue puis à l'audience. La peine d'un an de prison avec sursis probatoire prononcée à l'encontre de Louis F. a été assortie d'un stage de citoyenneté, d'une obligation de soins et de 140 heures de travail d'intérêt général. La profanation de la tombe de Robert Badinter au cimetière de Bagneux dans les Hauts-de-Seine avait été constatée le 9 octobre 2025, à quelques heures seulement, avant la panthéonisation de l'ancien avocat et garde des Sceaux, artisan de l'abolition de la peine de mort en France en 1981. Les mots « éternel » et leur reconnaissance, les assassins, les pédos, les violeurs, la République le sanctifie, avaient été tagués à la peinture bleue sur la sépulture de l'ancien ministre décédé en février 2024. Des plans du cimetière ont également été retrouvés chez l'étudiant, ainsi que deux croix gammées dessinées sur un cahier, ce que le jeune homme a qualifié de mauvaise blague. Questionné longuement sur ses idées politiques, le prévenu s'est dit séduit par l'idéologie royaliste. Au cours de l'audience, il a cependant reconnu à plusieurs reprises avoir agi avec froideur et présenté ses excuses à la famille de Robert Badinter.
Et on rappelle qu'aujourd'hui, la profanation de sépulture est passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, selon la loi française. Il est 7h25, on va marquer une petite pause musicale avec le titre « Respire encore » de la talentueuse Clara Luciani.
Dans le bordel, dans le soir, débraillé dans le noir, il faut travailler.
C'était Respire encore de Clara Luciani. Vous êtes bien sur Radio Campus Tours et vous écoutez toujours la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. En Amérique latine, les tensions montent d'un cran entre le Venezuela et les États-Unis. Samedi 30 novembre, Donald Trump a affirmé que l'espace aérien vénézuélien devrait être considéré comme totalement fermé. Pourquoi une telle escalade ? Explication de Maya Dubos.
La crise entre Washington et Caracas dure maintenant depuis plus de 3 mois. À l'origine, Donald Trump accuse le Venezuela d'aider au trafic de drogue qui arrive aux États-Unis. En réponse, les forces américaines sont déployées en mer des Caraïbes, où au moins 83 personnes ont déjà été tuées. Officiellement, Washington affirme vouloir lutter contre les cartels de drogue. Mais pour l'instant, aucune preuve n'a été apportée pour démontrer que les bateaux visés étaient impliqués dans un quelconque trafic. Mais ce n'était que la première étape. Ensuite, le président américain est monté d'un cran en accusant Nicolas Maduro, le président du Venezuela, d'être à la tête des cartels de drogue. À Caracas, ces accusations sont fermement rejetées. Le gouvernement dénonce une manœuvre des États-Unis qu'ils accusent de vouloir provoquer la chute de Maduro.
Mais pourquoi les États-Unis s'intéressent tant à ce pays ?
L'argument économique est une des raisons de cet intérêt. C'est le pays d'Amérique du Sud qui possède les plus importantes réserves de pétrole connues au monde. Sur Fox Business, Maria Elvira Salazar, élue républicaine au Congrès, affirme que le Venezuela serait une aubaine pour les compagnies pétrolières des États-Unis, avec 1 000 milliards de dollars à la clé.
Les deux présidents sont radicalement opposés, mais se sont-ils entretenus ?
Oui, Donald Trump et Nicolas Maduro se sont parlé il y a plus de 10 jours au téléphone. Selon le Miami Herald, le président américain a présenté un ultimatum à son interlocuteur vénézuélien. Démissionner et quitter le pays immédiatement. S'il accepte de laisser sa place sur le champ, lui ainsi que sa famille seraient complètement libres. Maduro a refusé.
Face à toutes ces menaces, que fait le président du Venezuela ?
Il danse. Not war, yes peace. C'est sur ses paroles, un remix de ses propres discours, que le président du Venezuela a dansé lundi 1er décembre. La fermeture presque complète de l'espace aérien a provoqué la colère du chef de l'État. Il condamne une menace colonialiste.
Quelle sera la prochaine étape ? Une frappe terrestre ? Selon des sources du New York Times et de Wall Street Journal, Donald Trump l'a laissé entendre. La semaine dernière, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé la transformation des 19 centres éducatifs fermés du secteur public. Une décision motivée par un manque d'efficacité. Qu'en est-il, Alia Trabelsi ?
À leur création en 2002, les centres éducatifs fermés, les CEF, s'annonçaient comme la dernière alternative à la prison pour les mineurs multirécidivistes. Des structures où une douzaine de jeunes résident pendant 6 mois, encadrés par 16 éducateurs, sans possibilité de sortie. Seulement voilà, le bilan du ministre de la Justice est sans appel. Le modèle de ces centres ne tient pas ses promesses. Fin de citation. Un constat partagé par l'inspection générale de la justice qui avait alerté sur le manque d'activité éducative avec en moyenne seulement 8 heures de cours par semaine. S'y ajoutent des conditions professionnelles difficiles, marquées par une violence accrue. Les éducateurs titulaires désertent, remplacés par des contractuels, parfois peu formés à ce type d'encadrement. Conséquence, le taux de fugue est élevé, comparable à celui des foyers classiques, malgré un coût financier supérieur de 25%. Face à cet échec, les CEF publics se transformeront dès 2026 en unités judiciaires à priorité éducative. Les pensionnaires auront alors plus de liberté. Quant au personnel, il sera redéployé et même renforcé.
Une réforme qui, pour l'heure, ne concerne pas les CEF associatifs. Ces 39 autres centres situés partout sur le territoire continueront donc de fonctionner selon les règles actuelles. Il dénonce le verrouillage médiatique de Gaza et accuse les autorités israéliennes de crimes de guerre. Deux syndicats de journalistes ont porté plainte auprès du parquet antiterroriste concernant les conditions des journalistes à Gaza, Clara Danry.
Il s'agit du Syndicat national des journalistes et de la Fédération internationale des journalistes. Les deux organisations ont publié un communiqué ce mardi 2 décembre en annonçant porter plainte contre X auprès du procureur national antiterroriste. Cette plainte est déposée pour entrave à la liberté d'exercer le journalisme dans la bande de Gaza. Les deux organisations dénoncent, je cite, « des entraves massives au travail des journalistes dans les territoires palestiniens occupés » et dénoncent notamment le fait qu'aucun journaliste étranger n'ait eu le droit de pénétrer dans l'enclave depuis les attaques du 7 octobre 2023. D'après le communiqué, cette plainte repose sur de nombreux témoignages anonymes de journalistes français. Les reporters sur place racontent les nombreuses difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain, notamment, et je cite, « des refus d'accès, des contrôles, des menaces, des saisies de matériel », parfois des agressions physiques, des arrestations, des fouilles et des interrogatoires, des détentions et des expulsions arbitraires et même des chasses à l'homme. Selon les organisations à l'origine de la plainte, ces entraves au travail des journalistes ont un objectif qu'ils définissent comme évident, empêcher un traitement précis et nuancé des événements pour mieux imposer un narratif à sens unique. Selon Vanessa Ripoche et Julien Fleury, secrétaires généraux du SNJ, les journalistes peinent à être reconnus comme des observateurs. Ils sont souvent assimilés à des activistes, voire à des terroristes, ce qui motive les actions menées contre eux.
Mais pourquoi cette plainte ? Est-ce que le parquet français a le pouvoir d'agir sur des événements qui ne se passent pas sur son territoire ?
Excellente question, Youn. Comme expliqué dans le communiqué du SNJ et de la FIJ, le parquet antiterroriste français... Ces faits sont commis dans des territoires occupés. Cela signifie qu'Israël ne peut faire valoir son immunité d'État. Et surtout... La justice française peut agir dans la mesure où cette plainte pour crime de guerre concerne des ressortissants français et les atteintes dénoncées portent sur leur liberté fondamentale. Le secrétaire général de la FIJ a d'ailleurs déclaré dans le communiqué que, je cite, « la France avait le devoir d'agir pour protéger ses ressortissants ». Les deux avocates qui ont rédigé la plainte soulignent le fait que la protection de la liberté de la presse constitue un principe essentiel dans tout état de droit. C'est donc sur cela que se fonde la légitimité à en appeler à la juridiction française. Les avocates ajoutent que c'est la première fois qu'une telle action judiciaire est engagée devant une juridiction nationale sur la question des crimes de guerre visant des journalistes. Selon Louise Eliafi, l'une des avocates, le problème va même au-delà des journalistes. C'est ce qu'elle affirme quand elle déclare à France Info « Quand vous empêchez les journalistes d'accéder à une zone de guerre, vous empêchez la société de comprendre ce qui s'y passe. »
Mais Israël a-t-elle réagi à cette plainte ?
Le pays n'a pas réagi de manière officielle, mais selon Euronews, une source diplomatique israélienne aurait déclaré que les actions des syndicats n'avaient aucun fondement juridique et qu'il s'agissait, je cite, d'une procédure illégale. Cette même source a ajouté qu'Israël a expliqué à plusieurs reprises qu'il était dangereux d'autoriser les journalistes à entrer à Gaza et a rejeté la plainte comme étant un écran de fumée et une nouvelle tentative de guerre juridique contre Israël. L'affaire reste donc à suivre, mais l'enjeu est donc national et même international, comme le précise Dominique Pradalier, la présidente de l'IFJ, qui espère que l'action enclenchée en France incitera d'autres pays à faire de même.
Cette plainte suit notamment le dernier bilan de la FIJ, publié le 30 octobre dernier, dans lequel elle recense au moins 255 journalistes palestiniens tués depuis octobre 2023. Il est 7h37, vous écoutez Good Morning Tour sur 99.5 FM. On se retrouve juste après une petite pause musicale avec le titre « Nouvelle » de PLK.
Jamais de nouvelles, que j'ai pas tant d'amour pour elle, mais pourtant je pense à elle tout le temps. Elle me dit que je donne jamais de nouvelles, que j'ai pas tant d'amour pour elle, mais pourtant je pense à elle tout le temps.
c'est toi la plus belle. Ton nom dans chacun de mes poèmes, mais pourtant, où t'étais douce. Hey.
Trop de doutes au fond, mais j'étais volontaire. J'suis fier, blancheur sur deux, mais peut-être pas au long terme. Quand on a un souci, on dit rien, on l'enferme. Mais toutes les promesses qu'on s'était faites sont parties en enfer. J'ai fait des pieds et des mains pour que tu me fasses du pied. Mais je crois que l'amour nous joue des tours, en tout cas il nous a dupés. Je suis au cœur du problème, je suis au cœur des secousses. J'attends que la haine disparaisse, que les nuages se poussent. Et peut-être qu'avant j'avais de l'amour, mais aujourd'hui je ressens plus grand chose. Comme une boîte de nuit qui se vide, y'a plus de musique et y'a plus de danseuse entre mes principes et tes valeurs. Je dois faire le grand écart, mais ça m'amuse plus comme si on jouait ensemble. Et je peux voir tes cartes, je suis concentré que sur l'oseille. Et toi tu me parles de faire le miel, des menaces de me quitter. Mais si t'as un truc à faire, fais-le. T'inquiète pas, mon bateau a déjà vécu des grosses tempêtes. C'est Polak, 25 ans à dormir sur la banquette. Hein.
Elle me dit que je t'aime jamais de nouvelles. Que j'ai pas tant d'amour pour elle, mais pourtant. Je pense à elle tout le temps. Elle me dit que je t'aime jamais de nouvelles. Que j'ai pas tant d'amour pour elle, mais pourtant. Je pense à elle tout le temps. Dans mes rêves, c'est toi la plus belle. Ton nom dans chacun de mes poèmes, mais pourtant. Où t'étais tout le temps.
Hey. Pendant des années, on est resté dans le déni. Hypocrite comme dire que l'Italie est Mario Balotelli. J'ai beau fixer la trotteuse, mais le temps passe vite. Que tu sois sur le trottoir ou dans l'avant-classe VIP. Tu jetais mes affaires en disant bon débarras. Puis tu me rappelais en pleurant, reviens s'il te plaît, mais tu fais quoi là? J'étais torturé, j'ai la tête dans les taux. J'ai préféré me focus sur le rap pour éviter le mandat d'épaule. Un jeune de banlieue, échec scolaire. Juste un parcours classique jugé pour trafic. À 15 ans, petite chemise et paire de Asics. Débrouillard, fallait trouver des petites magouilles. Mais tu réfléchis moi gentiment quand t'as ton petit gargouille. Hein.
Elle me dit que je t'aime jamais de nouvelles. Que j'ai pas tant d'amour pour elle, mais pourtant. Je pense à elle tout le temps. Elle me dit que je t'aime jamais de nouvelles. Que j'ai pas tant d'amour pour elle, mais pourtant. Je pense à elle tout le temps. Dans mes rêves, c'est toi la plus belle. Ton nom dans chacun de mes poèmes, mais pourtant. Où t'étais tout le temps.
Il est 7h40, vous écoutez toujours la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. À Saint-Étienne, c'est la fin de plusieurs années de bruit politique et médiatique. Lundi, le maire Gaël Perdriau a été condamné à 4 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité. Il a été jugé coupable de chantage, détournement de fonds publics et association de malfaiteurs dans l'affaire du chantage à la sextape. Une affaire révélée en 2022 par Mediapart et qui, Jules Fricon, a largement terni l'image de la ville.
Gaël Perdriau rêvait de faire rayonner Saint-Étienne. Il se voyait candidat de la droite à la présidentielle de 2022. 5 ans après sa réélection à la mairie, il a été condamné, médiatisé et a largement contribué à faire parler de sa ville. L'image de Saint-Étienne a été ternie par les accusations visant le maire et ses proches. La maison d'édition Paul, qui publie Emmanuel Carrère, a par exemple expliqué boycotter la fête du livre qui se tient dans la ville. Un tel événement valorise l'équipe municipale qui l'accueille, selon elle. Alors elle a choisi de ne pas se rendre à Saint-Étienne. Dans le centre-ville, il y a peu d'investissements immobiliers, les cadres ne veulent plus venir, les membres du gouvernement non plus. Sur les réseaux sociaux, les mèmes humoristiques pleuvent. Alors, dans la ville, on espère que la condamnation du maire permettra de tourner la page, d'insuffler une nouvelle dynamique. Beaucoup d'élus parlent de soulagement. Un prochain maire sera nommé par le conseil municipal la semaine prochaine, avant que la campagne ne débute réellement pour les élections de 2026.
Et même si Gaël Perdriau a annoncé faire appel de la décision du tribunal, il devrait tout de même être incarcéré d'ici quelques semaines. Oui, les révélations de Mediapart en 2022 n'y sont pas pour rien. Tout de suite, le flash info de Rachel Giraudeau.
Nouvelle étape dans l'installation de l'armée au pouvoir en Guinée-Bissau. Hier, la junte a annoncé la mise en place d'un conseil national de transition ainsi qu'une charte nationale de transition. 8 jours après le coup d'État, ces résolutions visent à justifier son coup de force. Ils ne participeront pas à l'Eurovision 2026. L'Irlande, l'Espagne, les Pays-Bas et la Slovénie ont annoncé boycotter le concours après que l'Union européenne de la radio-télévision ait autorisé la participation d'Israël à cette édition. Les quatre pays qui pourraient bientôt être rejoints par l'Islande dénoncent la guerre à Gaza et le soutien public massif aux candidats israéliens lors des précédentes éditions. Hier, le Sénat a adopté la partie dédiée aux recettes du projet de budget de l'État pour 2026. L'ensemble de la gauche y est opposé, tandis que la droite, les centristes et le groupe macroniste ont voté pour. Adopté à 198 voix contre 105, ce vote n'est qu'une étape dans le long processus qui doit mener à l'adoption d'un budget au Parlement avant la fin du mois de décembre 2025. Côté culture, la pop star espagnole Rosalia a annoncé une tournée en 2026 qui démarrera par 3 dates en France. Le coup d'envoi pour cette tournée mondiale, pour son 4e album Luxe, sera donné le 16 mars à Lyon et la billetterie ouvrira jeudi prochain à 10h.
C'était le Flash Info présenté par Rachel Giraudot. Le maire de Fréjus, David Racheline, a annoncé ce mardi 2 décembre démissionner de son poste de vice-président du Rassemblement National. Olivia Heidenreich, pourquoi cela ?
Eh oui, David Racheline est cerné par les affaires judiciaires et le parti d'extrême droite a confirmé qu'il ne porterait pas officiellement ses couleurs lors des municipales de mars 2026 à Fréjus dans le Var. L'ancien vice-président du Rassemblement National est visé par une enquête pour corruption après des révélations du livre Les Rapaces en 2023. Le livre dénonçait des marchés truqués avec un entrepreneur local du BTP. Le 27 janvier, le tribunal correctionnel de Draguignan doit aussi rendre son jugement dans une autre affaire. Le maire de Fréjus est poursuivi pour prise illégale d'intérêt pour être resté présent lors des délibérations portant sur ses propres nominations à la tête de deux sociétés d'économie mixte. Le parquet a requis 10 000 euros d'amende et suggéré que la peine complémentaire d'inéligibilité automatique en cas de condamnation soit assortie du sursis.
David Racheline a toutefois assuré qu'il resterait adhérent du Rassemblement National et attaché aux idées qu'il défend depuis l'âge de 15 ans. Il est 7h45, c'est l'heure de la chronique culturelle présentée par Angelina Richard. Est-ce que les enfants vont bien ? C'est à cette question que tente de répondre le film qui porte ce titre. Sorti en salle le 3 décembre, le long métrage fait déjà beaucoup parler de lui, tant il soulève des questions cruciales comme la maternité. Angelina Richard, de quoi s'agit-il ?
Son réalisateur, Nathan Ambrosini, a encore fait parler de lui. Un thème commun à chaque fois, la famille. Après un long métrage sur une maman célibataire de 4 enfants qui veut reprendre ses études, ce nouveau film parle, lui, de la disparition volontaire d'une mère face à ses enfants. Tout le long du film, le public est maintenu à savoir si leur mère, Suzanne, jouée par Juliette Armanet, va-t-elle revenir ou est-ce juste une pause. Le rôle de sa sœur, Jeanne, est lui joué par Camille Cotin. C'est celle qui accueille par défaut ses deux jeunes enfants. Un personnage attachant, distant, qui n'a jamais voulu d'enfants. Divorcée justement parce que sa femme, elle, en voulait des enfants. Très vite, des questions se posent, des questions juridiques, mais surtout sentimentales. Va-t-elle garder sa nièce et son neveu ? Est-ce que le lien du sang est assez fort pour garder, mais aussi assez fort pour laisser ? Une phrase marquante du film, justement, est la suivante. Parfois, on peut laisser les gens qu'on aime par amour. Mais ça, Jeanne, elle ne le comprend pas. Pour elle, sa sœur, cette mère veuve qui a sombré dans la tristesse et dans la solitude au point de ne plus pouvoir subvenir à ses enfants, qui se sent seule, sûrement, souvent, eh bien, ça ne suffit pas. Mais la connaissait-elle vraiment ? Cela faisait des années que les deux sœurs s'étaient perdues de vue. Elles-mêmes ont vécu un schéma familial compliqué qu'on découvre tout au long du film. Mais qu'est-ce qu'un schéma familial sans complications finalement ? Le film pose ses questions mais n'y répond pas vraiment. Il laisse au final le spectateur et les spectatrices avec ses doutes, son propre avis, mais assez de possibilités pour essayer d'y répondre au mieux. Un film qui fait référence à la propre histoire du réalisateur qui a lui aussi été laissé par sa sœur, qui est parti sans plus donner de nouvelles.
Merci Angelina Richard. Le film Les enfants vont bien est actuellement en salle dans les différents cinémas de Tours. Il est 7h47, le temps d'une autre pause musicale. Place à And She Was de Talking Heads.
Hear the highway.
venez d'entendre le titre « And She Was » de Talking Heads. Vous êtes toujours sur Radio Campus Tour 99.5 FM.
Place maintenant au deuxième épisode de la série de Youn Rollin consacrée au diabète de type 1. Dans celle-ci, il part à la rencontre de patients et d'experts pour mieux comprendre cette maladie avec laquelle il vit lui aussi depuis ses 12 ans.
Le diabète, c'est une maladie auto-immune, mais d'une certaine façon, c'est aussi un compagnon de vie. On apprend à vivre avec, à dormir avec, à tout faire avec, malgré les difficultés qu'il impose. C'est une contrainte, oui, mais qui n'empêche en rien de mener une vie personnelle et professionnelle épanouie. Lou, diabétique de type 1, nous raconte comment il le gère au quotidien. Bon, petit souci technique, ce n'est pas grave. David Patroyo, président de l'association Jeunes Diabétiques 37, souligne aussi l'accompagnement de qualité par les soignants. Bon, petit souci technique, c'est les aléas du direct après tout. On va passer au billet d'humeur et en plus, belle matinée, il y en a deux. Le Laboubou, simple jouet en vinyle, s'est érigé en symbole global du désir superficiel. Une leçon de soft power et d'économie contemporaine. Mathias, c'est à toi.
Pour ceux qui n'en ont jamais vu, le Laboubou est un petit monstre en vinyle. Il a de très grandes oreilles, le sourire carnassier. C'est un peu le croisement entre un gremlin et une mascotte kawaii passée dans une essoreuse. Son succès planétaire relève du miracle. Aujourd'hui, il est l'un des objets les plus importants du soft power chinois. C'est une marque bien mieux identifiée par les enfants que son parent, les Monchichi. Ce qui frappe le plus sur ses peluches, le monstre est très cher et hiérarchisé. Il y a des vrais Laboubou, des faux Laboubou. Pourtant, les deux sont fabriqués en Chine. L'aura que créent ces peluches pose une première leçon aux enfants. C'est le maire du capitalisme. La valeur découle moins de l'usage que du signe. Parce que l'on peut faire exactement la même chose avec un faux ou un vrai Laboubou. Les enfants partent à la poursuite d'une peluche authentique au point d'en perdre la raison. Et de retour à l'école, tout le monde en possède un. L'aura s'évapore, la magie aussi. Créature improbable mais maître redoutablement efficace, un Yoda de Wall Street déguisé en monstre kawaii. Selon Hollywood Reporter, un film Laboubou serait en préparation chez Sony. Je ne sais pas toi Youn, mais j'ai déjà hâte des premières images de ce nouveau gremlin.
Eh bien, ton billet d'humeur m'a bien donné envie. On arrive déjà sur la fin de cette émission, mais avant de se quitter, on va retrouver Mathilde pour... Bon, finalement, on va retourner sur ma série. Quelques soucis techniques, c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Reprenons où on en était. Le diabète, c'est une maladie auto-immune, mais d'une certaine façon, c'est aussi un compagnon de vie. On apprend à vivre avec, à dormir avec, à tout faire avec, malgré les difficultés qu'il impose. C'est une contrainte, oui, mais qui n'empêche en rien de mener une vie personnelle et professionnelle épanouie. Lou, diabétique de type 1, nous raconte comment il le gère au quotidien.
Actuellement, je suis préparateur automobile, donc ça va, on est debout toute la journée, mais c'est pas non plus hyper sport. Mais je prends quelques précautions quand même. J'ai toujours de quoi me resucrer dans mon casier. Je mets quand même régulièrement le mode sport sur ma pompe. Un mode du coup qui va augmenter la glycémie cible. Elle va être moins agressive, elle va diffuser moins d'insuline, elle va essayer d'atteindre une glycémie qui est plus haute. Mais du coup, on va garder une bonne glycémie avec l'activité physique.
David Patroyo, président de l'association Jeunes Diabétiques 37, souligne aussi l'accompagnement de qualité par les soignants.
Donc il y a un réel accompagnement, il y a aussi un accompagnement psychologique s'il y a besoin, parce que c'est pas facile à assumer, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Donc les parents, s'ils ont besoin d'être suivis, il ne faut pas hésiter, et les enfants également.
Malgré tout, cela reste une maladie qui peut lourdement peser sur la conscience.
Qu'est-ce que je pourrais dire à ceux qui le vivent mal? C'est peut-être déjà de rencontrer des diabétiques, de parler avec eux. C'est un peu bateau comme réponse, mais faire du sport, ça aide globalement dans la vie en général et ça aide vachement pour réguler le diabète.
C'était le deuxième épisode de la série de Youn Rollin consacrée au diabète de type 1. Rendez-vous la semaine prochaine pour le troisième et dernier épisode de cette série.
Bon, cette fois-ci, on arrive vraiment sur la fin de l'émission, mais avant de se quitter réellement, on retrouve Mathilde pour un deuxième billet d'humeur. Aujourd'hui, on parle d'une rumeur qui enfle, un mystérieux projet de labellisation des médias. Pour en savoir plus, Mathilde, cette semaine, tu as lu le journal du dimanche.
Alors oui, une fois n'est pas coutume, mais on peut dire que j'ai eu ma dose hebdomadaire de drame politique pour mon plus grand bonheur. Un nouvel épisode du feuilleton du Petit Prince déchu de la place Beauvau, Bruno Retailleau, contre le reste du monde. Aujourd'hui, ce n'est ni l'immigration ni l'ultra-gauche qui le pourfend, mais l'Élysée, et au passage le journalisme lui-même. Tout part de la une du JDD, propriété du milliardaire d'extrême droite Vincent Bolloré, qui entretient le flou sur de supposés propos d'Emmanuel Macron autour d'un label pour les médias. Pascal Prove, Philippe Devilliers et consorts s'en emparent aussitôt et agitent la menace d'une Pravda moderne, d'un ministère de la vérité. Rien que ça. Jusqu'à pousser la présidence à publier un fact-checking. Dommage, on imaginait presque Macron en Big Brother, costume bien repassé, loupe à la main, examinant des cartes de presse à la lueur de sa lampe de bureau. L'idée d'un label vient en fait des états généraux de l'information, un comité indépendant qui, en 2024, suggérait une forme d'autorégulation professionnelle, journalistes et influenceurs compris, pour reconstruire la confiance du public. Macron a trouvé l'idée intéressante, point, mais il n'en fallait pas plus pour nourrir une semaine entière d'indignations calibrées qui n'ont pas manqué de remplir le vide dans les colonnes et sur les ondes des médias Bolloré.
Mais ils ne sont pas les seuls à s'être insurgés.
En effet, dans la foulée, Retailleau monte au créneau, il assène « Nul gouvernement n'a à trier les médias ni à dicter la vérité ». Puis il lance mardi une pétition sur le site des Républicains, visiblement « On s'ennuie chez LR ». À croire que si proche des municipales, conserver les quelques dernières mairies qui échappent encore au Rassemblement national ne suffit plus à remplir les journées du petit Bruno.
Tu sembles amusé.
Amusé, oui, mais surtout perplexe, parce qu'en école, on nous martèle la règle des 5 W. Une information, c'est who, what, when, where, why. Ici, rien, pas de quoi, pas de qui, pas de comment, un label, lequel, par qui. On nage dans le brouillard, mais on hurle déjà à l'incendie. Et puis, soyons sérieux, tous les médias ne se valent pas. Alors qu'on s'entende bien, je ne m'oppose évidemment pas ici au pluralisme des médias, encore moins au journalisme libre. Mais pour cela, il faut se mettre d'accord. Une opinion n'est pas et ne sera jamais égale à une information. Même si, paraît-il, de nos jours, l'effet s'est désuet. Mais bon.
Et donc, selon toi, on assiste à quoi ?
À une belle panique auto-alimentée. Une polémique qui ne dit rien du projet, puisqu'il n'y en a pas, mais beaucoup des peurs qui l'éveillent. Et surtout, de la façon dont certains, faute d'idées nouvelles, préfèrent déplacer les faits pour occuper l'espace. Alors, Big Brother peut dormir tranquille, Orwell, lui, peut commencer à trembler. La concurrence en dystopie devient sérieuse. En attendant, pour faire société, tentons déjà de nous accorder sur les faits. Pour les idées, on verra plus tard.
Merci Mathilde pour ce formidable billet d'humeur. Il est 7h59 et c'est la fin de cette matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Un grand merci une nouvelle fois aux auditeurs d'avoir passé ce début de journée avec nous et merci à tous les participants, Rachel, Olivia, Antoine, Maya, Alia, Clara, Jules, Angelina, Mathias ainsi que Mathilde et merci aussi à Andrés pour la technique. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain, même heure, même fréquence, 99.5, en espérant être un petit peu mieux organisé. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne journée à toutes et à tous.